I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et très heureux de vous retrouver pour la troisième édition du 4 quarts, et oui, on se retrouve pour ce nouveau format qu'on a inauguré à l'occasion de cette saison 2022-2023. C'est Ben qui vous parle pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast avec la même équipe que pour la deuxième édition du 4 quarts. Tom, est-ce que c'est fait? Est-ce que le nom est définitivement adopté? C'est un secret de poulet chiné, je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan de ouf, mais j'ai l'impression que ça a fait son chemin, tout le monde s'habitue, donc on va garder le 4 quarts, quoi.
Bah ouais, moi j'aime bien, après avoir avec le peuple, avoir avec le peuple, hein, la voix du peuple contre l'oppresseur.
Constant, est-ce que tu te fais aussi le relais de la voix du peuple contre l'oppresseur, qui apparemment est tout désigné, hein, ça serait moi donc.
Moi, à partir du moment où le carton a déjà été pris, il faut être obligé de garder le 4 quarts, donc. Moi, ça me dérange pas. C'est juste à la fin, si on fait un, quand on va arriver au quatrième 4 quarts, il y aura plus de parts pour les gens qui vont rester. Quoi. C'est ça le problème.
Oh, c'est beau.
Ce sera la croûte.
On va faire une cinquième partie pour les playoffs qui va s'appeler la croûte.
Eh bien, on enregistre très tard, hein, si on peut poser les bases directement. Alors, pour vous rappeler un petit peu pour ce nouveau format, du coup, on décide tous les 20 matchs, d'où le 4 quarts. Bon, à cause du All-Star Break, cette fois-ci, on a un peu triché, on n'est pas techniquement à 20, on est plutôt aux alentours de 17-18 selon les équipes. Passons, on décide de faire un point sur la saison. Alors, on va mettre en avant des équipes, des joueurs de manière positive et de manière négative à chaque fois. Puis en première partie, on va revenir sur trois points qu'on avait abordés la dernière fois. Avant de se faire, on vous invite comme d'habitude à nous noter sur les applis de podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Apple Podcast où on s'approche, je crois, bientôt des 300, donc n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles et aussi à mettre un commentaire. Et puis suivez-nous, c'est difficile, aussi sur YouTube. Comme d'habitude, vous étiez très nombreux pour un No Live dernièrement, donc on vous en remercie. On va marquer une petite pause et puis c'est parti pour ce 4 quarts. Un des points négatifs aussi du 4 quarts, messieurs, c'est que c'est assez difficile à prononcer quand il est 5h30 du matin. Passons. Du coup, on va revenir sur trois points mis en avant, équipe ou joueur la dernière fois. Commençons, messieurs, par Indiana. Indiana qui a vécu des derniers matchs assez compliqués. On est dans la zone du 4 quarts, mais si on va voir que pour les équipes du bas de tableau, on entre vraiment dans le dur, en tout cas dans une période où on essaye un peu moins. Hein, dans les équipes qui vont être mis en avant négativement, on en a une qui va justement pour laquelle ça va vraiment être le cas. Constant, je vais commencer sur toi pour Indiana. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur ces 17-18 derniers matchs du côté d'Indiana depuis qu'on les a laissés?
Oui, bah, je rejoins ce que tu dis. Pour moi, c'est vraiment une période révélateur pour pas mal d'équipes, en fait. Que ce soit pour les équipes mauvaises ou pour les équipes bonnes, c'est vraiment une période où tes lacunes sont de plus en plus visibles, si tu en as, ou tes qualités sont de plus en plus visibles. Bah, pour Indiana, ils sont un peu restés sur la même configuration que lorsqu'on les avait quittés précédemment. Je me rappelle, lors du précédent 4 quarts, Tom avait parlé du fait que les Pacers avaient joué énormément de matchs dans le clutch, et que la plupart des matchs qu'ils avaient joués dans le clutch, ils ont débuté en étant derrière. Bah, ils ont refait le coup là depuis sur ces 17 derniers matchs, puisque sur la période, il y a 17 matchs, les Pacers ont joué 9 matchs dans le clutch, 3 victoires, ouais. 6 défaites. Il y a 8 matchs où ils étaient derrière avec 5 points d'écart à moins de 5 minutes de la fin. Globalement, le bilan des Pacers depuis la dernière fois, il est vraiment pas positif. 4 victoires, 13 défaites, 28e defensive rating, 27e net rating. La défense d'Indiana est vraiment retombée, et même le souffle de début de saison d'Indiana est retombé. J'ai envie de dire, est-ce un retour à leur réel niveau? Je ne sais pas. Peut-être qu'en début de saison, ils ont surjoué, notamment Bénédicte Mathurin, qui est quand même retombé dans des standards un peu plus normaux et un peu plus convenables pour un rookie, puisque sur la période, il a autant de turnovers que d'assists. Ça, déjà, c'est un peu problématique. Et surtout, il ne tourne qu'à 30,8% à 3 points. Quand on voit son début de saison, ça change quand même pas mal la physionomie des matchs d'Indiana. Tyrese Haliburton s'est blessé, il a joué que 10 matchs. Même là, sur les derniers matchs, lorsqu'il est revenu, on sent un Haliburton un peu plus emprunté qu'en début de saison, où je le trouvais beaucoup plus inspiré. Voilà, pour moi, c'est vraiment un retour à la réalité pour Indiana. Et en sortie de break, vous savez, il y a toujours ces équipes qui étaient correctes avant le break, et en sortie de break, se mettent à perdre tous leurs matchs. C'était le Thunder il y a 2 ans, c'était les Blazers l'an dernier. Je me dis que les Pacers ont peut-être une tête à être cette équipe-là, puisqu'ils sont pas si loin que ça en fait de la 5e place et du 5e pire bilan, puisqu'ils sont 6e pire bilan actuellement avec 27 victoires. Ils ont seulement 2 victoires de plus qu'Orlando, sachant que Orlando n'est pas une équipe qui tanque, ou en tout cas si on peut appeler ça tanker. Orlando est plus dans une optique de développement des jeunes, et faut dire qu'ils le font plutôt très bien. Donc si on fait un résumé d'Indiana, coup de moins bien de tes shooters et une défense qui maintenant est devenue beaucoup trop lacunaire, ou possède un peu trop de lacunes pour réellement exister.
Tu l'as dit, Constant, 27e défense. Alors on va en parler un peu plus tard. Quand tu es 27e défense dans cette 3e édition du 4-4, c'est vraiment que t'es défensivement t'es très très en difficulté. D'après Cligny de Glace, c'est 121.8 hein, sur la période. Les Pacers, c'est très compliqué. Et ils sont 27e. Hein. Il y en a qui font bien pire. Hein. On va y revenir plus tard. Tom, un petit mot sur les Pacers.
Bah, comme Constant l'a bien dit, hein, c'est un peu le retour sur terre, le retour à la réalité pour cette équipe-là. Voilà, Haliburton, il a bien moins joué, puisque bon, l'essentiel de la main quand il était absent était repris par TJ McCollum et le deuxième rookie Nembhard. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, enfin, sans Haliburton, c'était beaucoup plus compliqué, notamment pour Bénédicte Mathurin. Alors, ça a pas forcément impacté des gars comme peut-être Buddy Hield et même Miles Turner, qui offensivement ils ont quand même tenu la baraque pendant la période, puisque les deux sont ont gardé quand même une certaine adresse malgré la baisse du niveau de guard play. Mais du coup, il y a quand même eu une régression au niveau de l'équipe, puisque même si McConnell, alors il y a une baisse de niveau quand McConnell remplace Haliburton, mais il y a aussi une baisse de niveau quand le joueur qui est censé remplacer McConnell, qui n'était pas dans la rotation de base, prend ses minutes. Donc du coup, ça fait un effet boule de neige. Et puis voilà, on est arrivé dans une période où la plupart des équipes sont en train de se placer. Et Indiana, au plus mauvais moment, a perdu son maître à jouer, et ça leur a coûté un peu, on peut dire, le play-in, hein, clairement.
Même si je trouve que McConnell fait pas du si mauvais boulot lorsque Haliburton est absent. Ah oui, j'ai trouvé plutôt efficace.
Oui. Puis on a... Ah ouais, totalement d'accord avec toi, c'est surtout le mec qui le remplace, quoi. Puisque quand l'option 2 devient l'option 1, ben l'option 3 doit devenir l'option 2, et l'option 4 doit devenir l'option 3.
Ouais.
Puis on avait parlé du profil, on avait notamment parlé de Bénédicte Mathurin qui avait pris feu sur le début de la saison. Quand tu te retrouves sur cette partie du 4-4, 24e attaque au cercle, 25e attaque aux 3 points dans les coins, vraisemblablement c'est beaucoup plus difficile. Enchaînons les gars sur Memphis. Alors là, on n'est pas du tout sur le même cas de figure. Hein. On était sur une continuité avec, dans le mauvais sens du terme, du côté des Pacers. Là, Tom, quand il s'agit de Memphis, moi, je me pose confortablement et je laisse Tom parler. Que s'est-il passé, Tom, sur ces 17-18 derniers matchs du côté de Memphis?
Bah, sur les 17-18 derniers matchs, il y a eu du positif, mais il y a eu beaucoup de négatifs. Alors, la première chose, c'est que il y a eu l'absence de Steven Adams à partir du road trip. Parce qu'il faut savoir que l'équipe commençait sur une grande série de victoires, à peu près 11 victoires, avant un road trip qui commençait à Los Angeles pour l'anniversaire de Dylan Brooks. Et du coup, il y a eu le fameux Shaden Sharp Game. Le fameux Shaden Sharp Game. Et du coup, le road trip de 5 matchs a tourné au calvaire, hein, avec 5 défaites. Alors, il y a eu des défaites courtes, mais 5 défaites. Et au fur et à mesure, l'équipe n'a jamais repris son rythme, tout simplement parce qu'il y a l'absence... Dans un premier temps, il y a l'absence de Steven Adams. Sans Steven Adams, il y a un impact du coup sur l'attaque et aussi sur la défense. Sur l'attaque, notamment sur le jeu en demi-terrain, puisque Steven Adams est une machine au rebond offensif et qui permet à Memphis d'avoir énormément de deuxième chance, vu que c'est une équipe qui est en panne d'adresse totale sur demi-terrain, donc il a besoin d'avoir un maximum de tentatives pour maximiser ses chances de gagner les matchs. Mais sans Steven Adams, ça ne marche pas. Sur le rebond défensif aussi, puisque Steven Adams, il est remplacé essentiellement par soit Brandon Clark, soit Xavier Tillman, mais du coup, ce sont des joueurs qui, au rebond défensif, notamment à leur position, ben, ne sont pas bons. Donc, Steven Adams, en gros, c'est le seul rebondeur plus de sa position avec John Conchar. Donc, quand tu enlèves Steven Adams, ben, tu te rends en plus compte du manque de gars comme Kyle Anderson, d'Anthony Melton, qui sont de très bons rebondeurs aussi à leur poste. Donc, tout ça, ça a eu un gros impact, du coup, sur Memphis. Ensuite, Tyus Jones, qui était en commençant l'année carrément limite le meilleur meneur backup de l'NBA, il a subi vraiment une période très difficile d'un point de vue basket, alors que puisque il a eu on va dire que il était très en dehors de ses standards, et ça doit être la pire période pour lui de Memphis, et c'est juste avant du coup l'accouchement de sa femme. Donc il peut peut-être avoir du coup
Il sera devant vite.
Des raisons. Voilà. Il sera devant vite. Là, sa femme, du coup, a accouché d'une petite fille, donc il est papa d'une petite fille, et ça va un petit peu mieux pour lui. Et les autres choses qui expliquent ça, c'est que Memphis est resté, du coup, l'une des pires équipes sur le quatrième quart-temps de la NBA. Hein. Ces problèmes sur demi-terrain ont perduré. Alors, pour vous donner une petite stat, par quart-temps, Memphis, c'est 7.2 de net rating au premier quart-temps. Donc, c'est quatrième de la ligue. 7 de net rating au deuxième quart-temps, c'est premier. 7 de net rating au troisième, c'est deuxième. Et moins 6 de net rating dans le quatrième, c'est 28e, juste devant San Antonio et Houston. Donc, quand vous êtes pas trop loin de Memphis à la sortie du troisième quart-temps, vous avez vraiment des chances de gagner le match.
C'était complet. Constant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Oh, j'ai 2-3 trucs à rajouter, mais ça, je me souviens que c'était déjà un truc qu'on avait cité dans le précédent 4-4.
L'an dernier.
Quand t'es avec les Spurs et les Rockets, c'est que généralement, c'est pas bon signe. Du coup, on peut le répéter encore une fois, ça va être un leitmotiv, je pense, de ces 4-4. Moi, j'ai quelques stats sur Memphis. Bon, déjà, l'attaque sur demi-terrain, le manque d'attaque sur demi-terrain est flagrant. Pour moi, il n'y a rien de plus représentatif que le quatrième quart contre Philly, où c'est vraiment un effondrement total du côté de Memphis. Après, il y a d'autres circonstances, mais oui. Dans une situation où vous voulez voir Memphis qui fait un bon match dans le quatrième quart, dans les minutes importantes, il y a vraiment un effondrement. Je trouve que c'est plutôt assez bien représentatif. Comme l'a dit Thomas, ils sont Tom, pardon. C'est juste que c'est marqué Thomas sur.
Ouais, Thomas, c'est mon prénom.
Ouais, mais c'est mon prénom. Je pense que c'est la première fois que je vais t'appeler Thomas. Voilà, les Grizzlies, ils sont 24e en rebond défensif percentage. 24e. Par contre, ils sont 9e en rebond offensif sur la période où ça inclut les quelques matchs qu'a joué Steven Adams. Moi, j'ai un problème, c'est l'adresse à 3 points. L'adresse à 3 points. Ils sont 27e en adresse à 3 points. Ils sont 24e en 3-point made, donc en total de 3 points inscrits. Il y a Jamoran qui tourne à 29%. Il y a Jaren Jackson Jr. qui tourne à 31%. Et en fait, cette équipe de Memphis, même si actuellement elle est pas bonne, j'ai envie d'un tout petit peu relativiser, parce que pour moi c'est une équipe qui gagne de beaucoup, mais c'est une équipe qui perd de peu. C'est-à-dire que oui, là sur les matchs, ils en ont gagné que 6 des 16 derniers. Par contre, sur les 6 victoires, il y en a 4 qui sont à 12 points ou plus, 12 points d'écart, et sur les 16 défaites, il y en a 8 avec 5 points d'écart.
Moins de 5 points, ouais. Ouais.
Donc ouais. C'est une équipe qui perd beaucoup avec peu d'écart, et ça rejoint un petit peu ce que disait Tom sur l'exécution sur demi-terrain. C'est sur des matchs qui se jouent à des détails. Memphis ne finit pas le job, même si là ils ont quand même fait une très belle victoire contre Denver la nuit précédente, le moment où on enregistre. C'était une vraie belle victoire pour ces Grizzlies.
Tom, quelque
sans Gordon, mais on prend quand même.
Oui, sans Gordon.
Tom, quelque chose à rajouter, parce que je sais, on parle peu de Memphis en fait, un peu par peur, tout le monde, hein, de dire des choses qui seraient contredites. Donc Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
Non, le constat était très complet. Oui, juste une petite chose à rajouter aussi par rapport à Steven Adams, c'est par rapport à l'adresse de Jamorant. Steven Adams, c'est l'un des meilleurs joueurs pour faire ce qu'on appelle les Gortat String. C'est-à-dire que il va poser un écran sur le joueur, par exemple, de Jamorant, et ensuite, en descendant vers le cercle, en roulant vers le cercle, il va poser un deuxième écran sur sur l'intérieur, ce qui permet du coup à Jamorant d'avoir pas mal d'espace, et Jamorant est bien en délicatesse depuis l'absence de Steven Adams pour finir aussi ben, au cerveau, puisqu'il n'a plus tout ce jeu d'écran, en fait. Donc, Steven Adams, c'est un joueur très, très important pour le système de Memphis. Ça pose de grosses questions par rapport au playoff, puisque c'est un pivot qui peut potentiellement être sorti. Donc, à voir comment Memphis va gérer ça. Et puis, juste pour rebondir sur ce que Constant a dit par rapport aux trois points, je pense que l'équipe, le front office a été agressif sur on sait qu'il était agressif sur des dossiers comme Ojanobi, comme Mikal Bridges à l'été, mais ils se sont quand même rendus, enfin ils sont au courant que l'équipe a une vraie faiblesse sur le terrain, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher quelqu'un comme Luke Kennard, et ça on le ressent depuis qu'il joue. Desmond Bane a beaucoup plus d'espace, Jaren Jackson a beaucoup plus d'espace, tout simplement parce que il est gardé de face. C'est du 4 contre 4 en fait. Quand il y a Luke Kennard sur le terrain, c'est du 4 contre 4. Donc lui, il n'arrive pas à être hyper prolifique de loin. Par contre, il offre pas mal d'espace à l'attaque sur le demi-terrain qui s'améliore quelque peu. Mais encore une fois, contrairement aux fans US de Memphis, les mecs sont soit trop haut, soit trop bas. Les 8 jours de break n'allaient pas changer fondamentalement l'équipe.
Ah, ce sont des fans en fait. Voilà.
Donc... ouais, mais nous aussi, mais bon.
Du coup, alors, pour éviter que le 4-4 fasse 3 heures, sur le troisième point, on va aller plus rapidement, les gars, c'est Jalen Brunson, qui, eh bien, depuis la dernière fois qu'on l'a quitté, tourne à 27 points de moyenne, presque 50% au tir, 43% à 3 points, et j'ai même noté 41% à 3 points dans les 3 points qui sont pas dans le corner, le tout avec 7% de turnover, ce qui est très très peu pour un mec qui a la balle dans les mains. C'est la meilleure signature de la free agency, les gars. Si on résume pour aller très vite.
Oui.
Quand, de loin.
Quand t'as un joueur qui est à plus 3 de ratio assist turnover, c'est que c'est largement correct aussi. Et il y a un point quand même que je voudrais souligner, c'est que lui et Julius Randle, sur la période entre les deux 4 quarts, ils sont respectivement 6e et 12e en nombre de points total marqués dans le clutch. C'est que tu as alors Julius Randle n'est pas le plus efficace de la planète dans le clutch, mais avec Brunson et Randle, t'as vraiment Randle déjà a fait des gros progrès défensifs cette saison, donc t'as une vraie assise défensive avec Julius Randle. Et de l'autre côté, t'as Jalen Brunson qui continue de mettre ses mi-distances. Globalement, sa shot chart est rouge partout dernièrement.
Mais d'ailleurs, Constant, j'avais une question pour toi par rapport à Brunson. Moi, quand je le regarde jouer, il me rappelle un peu Shea. Je sais pas, toi, tu vois, le jeu de drive, le contrôle sur les drives, le fait que, tu vois, il attaque beaucoup le cercle.
Ah, mais finit, tu vois, pas aussi bien.
Il va pas forcément finir. Voilà, il va pas forcément finir, mais il s'arrête un peu. Il est dans son propre tempo et je trouve que, enfin, en le regardant, il me rappelle un peu la façon dont Shea évolue. Notamment sur la partie drive.
Moi, il me fait un peu penser à Dennis Schroeder. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, il me donne des similitudes du côté Dennis Schroeder. Parce qu'en fait, Shea, je vois les comparaisons, mais pour moi, Shea est beaucoup plus crafty que, au niveau de son dribble, il est beaucoup plus crafty que Brunson.
Oui.
Mais après,
Brunson, il est plus physique. On va dire qu'il joue plus avec son physique, le côté. Il crée beaucoup la séparation avec le contact. Mmh. Là où Shea, c'est vraiment avec le jeu de décélération et la manipulation du ballon. Quoi.
Ouais. Mais pour moi, ouais, il y a peut-être un petit côté Dennis Schroeder. Pas forcément Dennis Schroeder actuel, mais un Dennis Schroeder qui était un peu plus axé, moins sur le 3 points et un peu plus mi-distance et attaquer le cercle.
Celui d'Atlanta, quoi, en gros.
Ouais, Atlanta, même au début, OKC.
OKC, eh bien, fermons, messieurs, ce premier chapitre avec le retour sur le dernier 4-4. Mes compatriotes ici présents le savent, mais j'ai complètement flingué notre introduction qui avait été prévue, notre transition qui avait été prévue en pré-production. Hein, mais bon, on va revenir dessus. L'objectif, c'était de passer de Memphis à un joueur de Memphis constant. On va entamer la période, la partie joueur négatif. On a un peu changé l'ordre par rapport à la dernière fois. Ton joueur négatif de cette troisième partie de saison, c'est Dylan Brooks. Vas-y, Constant.
En fait, quand j'ai évoqué Memphis, je me suis bien gardé d'évoquer Dylan Brooks puisque je savais qu'on devait embrayer sur Jalen Brunson après. Donc je me suis dit, on va pas faire la transition d'un coup. Oui, moi, Dylan Brooks, j'ai un énorme problème. Et ce que je vais dire va sûrement pas être du goût de Tom, mais est-ce que Dylan Brooks n'est pas en train de devenir une parodie de... C'est la question que je suis en train de me poser. Ou est-ce qu'on n'est pas dans l'excès avec Dylan Brooks? Et là, on est dans le trop-plein de Dylan Brooks. Défensivement, c'est toujours un top défenseur. Par contre, en attaque, moi, je commence à avoir un vrai problème au niveau de son utilisation. Depuis la blessure de Steven Adams, Dion Brooks, il prend plus de 10 tirs par match. Il est à 36% de réussite au tir, 25% de réussite à 3 points. Sachant que c'est le quatrième... Non, il va pas sur ligne. Sachant que c'est le quatrième joueur qui prend le plus de tirs pour Memphis durant cette période. Donc, en gros, ta quatrième option offensive, c'est le néant absolu. Dion Brooks a jamais été un joueur efficient. Depuis qu'il est arrivé à Memphis, depuis qu'il est drafté du côté de Memphis, ça n'a jamais été un joueur efficient. Les fans de Memphis se plaignent souvent des Dion Brooks games où il est capable, notamment les matchs où Ja Morant est absent, où il est capable de prendre un volume de tirs très important. Mais là vraiment, je commence à me poser des interrogations sur comment réussir à gérer Dion Brooks en attaque. C'est parce que je pense que Tyler Zenkitz, il se rend compte que donner des ballons à Dion Brooks, c'est pas forcément le truc le plus efficace de la planète, qu'on a un joueur très peu efficient. Pourtant, Dion Brooks continue d'avoir ce genre de tir, continue de prendre ce genre de tir. Donc, l'impact défensif de Dion Brooks, il est toujours énorme, mais en playoff, on recommence à penser et à raisonner dans une problématique de playoff, notamment pour ces Grizzlies. On parlait du cas Steven Adams, mais quid du cas de Dion Brooks en attaque? C'est vraiment une problématique et une question que je me pose, parce que quand je vois Memphis attaquer, il y a les problématiques sur demi-terrain, mais si Dion Brooks continue de prendre beaucoup de tirs à trois points, comme si c'était Klay Thompson ou comme si c'était JJ Redick, moi ça m'interloque. Donc je serais très curieux d'avoir l'avis de Tom sur Dion Brooks, parce que pour moi, on arrive à un point où ça commence à être dans l'excès, mais dans l'excès de façon négative.
Ah ben totalement d'accord avec toi Constant sur ton propos. On peut même commencer à se demander est-ce que en fait l'attaque vaut la défense. Et quelque chose qui est assez marrant, c'est que aujourd'hui Dion Brooks il est défendu comme Okoro. Clairement, j'avais vu quand Memphis a joué contre les Cavs, c'était exactement le même type de défense, alors que pourtant les capacités offensives, notamment de création de shoot, de la façon de pouvoir pénétrer, de se créer son tir, sont totalement différentes quand tu prends les deux joueurs. Pourtant, ils étaient défendus pareil. Contre Boston, pareil, défendu comme un non-shooter, alors qu'il a du volume, mais il n'est pas efficace, et c'est littéralement la pire période de sa carrière. Le seul truc qui peut être positive sur cette fréquence, enfin sur cette période en fait pour Dion Brooks, notamment offensivement, la seule chose positive, c'est que d'un point de vue taux d'usage, il est passé à 17%. C'est le volume le plus bas de sa carrière sur une période où il est généralement à 25, 26, 28. Là, il est à 17%, donc il commence à avoir peut-être un rôle qui arrive dans l'équipe. Après, c'est vrai que comme Constant l'a dit, il y a eu pendant cette période-là, il y a eu des matchs où Tyus Jones, comme je disais, il était pas bon. Il y a eu pas mal de matchs. Comment ça s'appelle? Desmond Bane a raté quelques matchs. Ja Morant aussi a raté quelques matchs. Jaren Jackson aussi a raté quelques matchs. En fait, il suffit qu'il y ait un des trois qui soit absent et là c'est les Dion Brooks games qu'on n'aime pas du tout. Mais je trouve que voilà, c'est un joueur important et puis le c'est un joueur important pour la façon dont l'équipe est construite, puisque défensivement il y a personne dans l'équipe qui peut faire ce qu'il fait et du coup ça pose vraiment un problème pour les playoffs et je pense que c'est vraiment ça va être une grosse problématique. Mais si, c'est un problème.
Si je peux ajouter un tout petit point positif, c'est que ce que je trouve intéressant avec Dion Brooks sur ce stretch de match, c'est qu'il a été capable de faire un peu de création. Il tourne à quasi 3 assists par match, tout en limitant son nombre de turnovers, oui, puisqu'il est à 0.8 sur les 16 matchs entre les deux épisodes du 4K. Donc ça, je le trouve intéressant, mais dès que c'est de la création ou de l'utilisation du ballon pour lui-même, je suis beaucoup plus sceptique.
Après, malheureusement, c'est un joueur qui préfère faire une passe risquée que il préfère faire prendre un mauvais shoot, très mauvais shoot, que prendre de faire une passe risquée et perdre la balle.
Je vais devoir serrer un peu les vis au niveau du timing. Oui. Enchaînons. Je vais enchaîner avec mon joueur, un de mes compatriotes, un autre Benjamin David Simmons pour le côté négatif. Alors la petite stat, on essaye toujours de mettre en avant une petite stat. Elle est terrible. C'est une triple stat. Alors, ce ne sont pas les numéros du loto. 31, 29, 27 sur la période. 31, c'est le nombre de ballons perdus par Ben Simmons. 29, c'est le nombre de fautes de Ben Simmons. 27, c'est le nombre de tirs réussis par Ben Simmons sur la période. Il a donc et réussi à perdre plus de ballons et à faire plus de fautes que de tirs réussis. Même le seul petit espoir, c'était sa capacité à finir au cercle, qui était toujours bonne, hein, 72% sur la période hors, Or, troisième partie du 4 quarts, il est descendu à 54%, 13 sur 24. Il prend plus de tirs. Sur les 115 dernières minutes qu'il a joué, il a tenté un lancer franc. C'est dramatique. Et je pense que la déclat de Jacques Vaughn d'il y a deux semaines a résumé un peu tout, en fait. Quand ton coach en vient à te désavouer en expliquant que, eh bien, si tu mets un autre grand, il y a un problème, de spacing. Si tu mets un autre créateur, comment faire jouer Ben Simmons sans ballon? Si tu joues petit avec Ben Simmons au rebond, il y a des problèmes. Ça résume un peu la problématique qui est devenue Ben Simmons en 2023. Ça me chagrine parce que, on le sait, c'est un joueur que j'adore, mais là, c'est trop. Enfin, je veux dire, même cette capacité à finir au cercle, il ne l'a plus. Donc, là, c'est rideau. Enfin, c'est vraiment triste. Et Constant, je veux pas te voler la vedette, mais le trophée Isaiah Thomas, comme tu l'as dit, a son vainqueur tout désigné au bout d'une soixantaine de matchs, quoi.
Ah bah là, on tient le vainqueur unanime. Là. Il y a des trophées de MVP unanimes. Là, le trophée Isaiah Thomas pour Ben Simmons, il va être unanime. Non, mais c'est triste, c'est triste. Enfin, franchement, la dégringolade est d'une tristesse pour Ben Simmons. Moi, j'ai pas. Enfin, t'as tout dit avec les stats, et moi, c'était vraiment la déclat de Jacques Vaughn, où je me suis dit, quand t'as un coach qui arrive à ce niveau-là, arrive à faire ce discours devant des médias, c'est que là, les coachs ont toujours tendance à minimiser les problèmes auprès des médias. Et si t'as un coach qui se permet de dire ça, ça veut dire que la réalité est peut-être même encore pire que ce que Jacques Vaughn laisse transparaître du côté des médias. Donc oui, triste fin pour Ben Simmons. Moi, j'y croyais un peu au début de saison, avant que la saison débute. Et là, force est de constater que malheureusement, ça va être compliqué et ça peut durer longtemps parce que le contrat court encore sur plusieurs années.
Non, pas grand-chose à rajouter malheureusement sur l'ami Ben Simmons. J'espère qu'il pourra accompagner cette équipe qui a bien besoin d'un playmaker supplémentaire, puisque finalement, quand tu vois le Ben Simmons il y a peut-être 4-5 ans ou même peut-être 3 ans, bah c'est l'effectif qui serait peut-être parfait pour lui, quoi. Donc c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage.
Parce que 4-5 ans, c'était sa draft. Mais...
Je reviens sur ce qu'a dit Tom. Je me suis mis ça dans mes notes. Hein. Il y a 2-3 ans, on aurait rêvé de Ben Simmons avec que des 3-and-D capables de mettre, défendre le fer avec lui en porteur de balle. Et là, c'est même pas envisageable. Quoi. Donc c'est vraiment triste. Tom, je te laisse enchaîner avec ton joueur négatif à mettre en avant. Et là, tu vas taper dans la Celtics Nation. Est-ce que tu es conscient de ce que tu mets, Tom? En jeu.
Bah, du coup, j'ai envie de parler un peu de Jaylen Brown négativement. Alors, simplement par rapport déjà dans un premier temps, il y a sa sélection de tir qui commence à être vraiment limite, on va dire, pour un deuxième porteur de balle principal. Et on a pu constater que certaines voix se lèvent, notamment dans la fanbase des Celtics. Puisque quand Jaylen Brown est absent, les Celtics ne sont pas meilleurs, mais ils jouent mieux. Tout simplement parce que dans le on va dire que dans l'attaque et l'écosystème offensif, les autres joueurs pour la saison régulière, attention, fit beaucoup mieux que ce que Jaylen Brown peut apporter quand il y a Jason Tatum qui est ton porteur de balle principal. Et pour revenir sur ma stat, c'est le jeu en pull-up de Jaylen Brown, puisque c'est quelque chose qui va être très important pour les playoffs. C'est quelque chose qui, sur la fin des playoffs de la saison dernière, il a pas mal marqué pour ça. Et sur la période en cours, Jaylen Brown, il est à 41% du coup de EFG sur le jeu en pull-up, que ce soit à 2 points ou à 3 points sur la période. Donc c'est la troisième pire marque derrière Tyler Hero et Brandon Ingram pour un tel volume. Donc du coup, il y a des choses à voir de ce côté-là pour lui, et surtout que moi je trouve que c'est un joueur qui a un peu baissé de pied défensivement par rapport aux saisons précédentes, que ce soit sur l'homme ou que ce soit loin du ballon. Je trouve que le joueur est peut-être moins bon que ce qu'on pense aujourd'hui. Voilà.
Constant, je te vois réfléchir là.
Oui, mon homme. Je suis d'accord avec Tom, surtout défensivement. Je trouve qu'il est quand même un cran en dessous de ce qu'il était capable de faire. Mais j'ai envie de pondérer mes propos, ouais, en disant que oui, les Celtics gagnent, mais sur notre période d'évaluation entre deux épisodes du 4-quart, je les trouve pas exceptionnels, en fait, ces Celtics. Même Jason Tatum, je le trouve pas exceptionnel non plus. Alors il y a des matchs où il va prendre des vrais coups de chaud, mais je le trouve beaucoup plus irrégulier qu'en début de saison notamment. En termes de son utilisation à 3 points, j'ai l'impression que ça ne fait qu'augmenter match après match et stretch par stretch. Par contre, il y a un joueur du côté de Boston que je trouve excellent dernièrement, c'est Malcolm Brogdon. Je le trouve vraiment très très bon. Voilà, après Jalen Brown, ouais. Oui, c'est la problématique Jalen Brown, c'est que cette attaque de Boston tourne mieux quand Jalen Brown n'est pas là. Mais pour moi, tu es obligé de continuer de donner ces tirs à Jalen Brown parce qu'en playoff, tu vas avoir besoin de ces tirs de Jalen Brown.
Oui.
En saison régulière, ok, ça ne va pas forcément très pretty. Ça va pas être forcément du goût du fan des Celtics. Mais si tu abandonnes la capacité de création pour lui-même de Jalen Brown, tu vas te retrouver dans des situations trop complexes lors des playoffs où, en gros, ça va être tout le monde sur Jason Tatum. Et si tu n'as personne qui est capable de sanctionner si Jason Tatum est vraiment très bien défendu, Boston ne peut pas viser le tout haut du panier et le titre NBA. Donc, c'est un mal pour un bien pour moi, où c'est quelque chose de frustrant actuellement, mais qui peut avoir son aspect bénéfique d'ici la fin de saison.
CF, les dernières finales NBA.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, c'est vrai que tu vois, comme tu l'as dit, il y a Brogdon, il y a aussi Derrick White qui a fait une très bonne période. Hein. Derrick White qui est l'un des meilleurs joueurs des Celtics, si on reprend la période, je crois qu'il a même gagné un titre de joueur de la semaine, je crois.
Il a volé un titre.
Une dizaine de jours. Donc, ouais, voilà quoi. C'est malgré les absences qu'il y a eu, même notamment de Marcus Smart, il y a Sam Hauser qui s'est révélé, qui est retourné dans la rotation et du coup qui est un joueur plutôt très efficace et qui amène un peu le côté explosif à l'attaque de Boston. Donc oui, faut exactement comme tu le disais, hein, Constant, hein, c'est moins joli quand Jalen Brown est là, mais l'équipe n'est pas meilleure sans lui. Mais du coup, lui, d'un point de vue niveau de shotmaking pour une deuxième star, va falloir qu'il fasse mieux que ça pour que Boston puisse gagner 4 séries.
Complètement.
Et bien, enchaînons, messieurs, avec les joueurs positifs. Cette fois-ci, le nom de Brandon Ingram a été cité, donc je vais te lancer toi, Constance. C'est le joueur que tu as décidé de mettre avant. Je te laisse enchaîner.
Oui, je vais utiliser le côté positif de Brandon Ingram aussi par extension pour taper un peu sur les Pels. Parce que j'avais déjà une autre équipe négative. Mais en fait, je voudrais parler de ces Pels parce que pour moi, les Pels, quand je disais tout à l'heure que on arrive dans une période où les problématiques des équipes se font de plus en plus visibles et qu'on est dans une période révélatrice, pour moi, on est dans une période extrêmement révélatrice pour ces Pels. Déjà, juste d'un point de vue bilan, en termes de victoires, défaites depuis notre dernier épisode du 4/4. 4 victoires, 13 défaites, comme Indiana. Il n'y a que San Antonio, Houston et Détroit qu'on fait pire. Encore une fois, quand tu es avec ces équipes-là, tu es sûr qu'il y a un problème. 24e attaque, 23e en ratio assist turnover. Et en fait, je voudrais souligner le fait que Brandon Ingram... Alors, il n'a pas joué tous les matchs qu'on a cités. Il en a joué 9, si je ne dis pas de bêtises. Il est en 25-5-5. Bon, avec 4 turnovers par match, donc il contribue bien à fragiliser ce ratio assist turnover. Il est à 45% au tir et 34% à 3 points. Alors quand vous voyez les stats, vous vous dites bon, c'est pas énorme, mais ça ne rend pas hommage à ce que fait Brandon Ingram parce que offensivement, il n'a aucun système en fait. Il a aucun système, il a aucun mouvement de balle. Il doit absolument tout faire par lui-même et il tourne à 45% au tir, mais en ne prenant quasiment que des tirs difficiles, que des pull-ups. Ouais. Que des jump shots, et je trouve ça.
Pas de lay-up pour Brandon.
Non, rien. C'est vraiment. Je trouve ça triste un peu pour Brandon Ingram, c'est qu'il est obligé de faire du hero ball, mais pendant tout le match. Et c'est un point que je voudrais souligner au niveau de ses pelles, c'est que là, ils sont arrivés à une vraie problématique, c'est que de 1, ils ne compensent plus l'absence de Zion Williamson offensivement. Là, l'absence de Zion leur fait trop mal, notamment avec un CJ McCollum que je trouve très moyen depuis un sacré paquet de temps. Depuis le moment où les Pels étaient en haut de la conférence Ouest, je trouve que CJ McCollum n'a pas l'apport qu'il pouvait avoir, même en seconde partie de saison. Il y a une problématique au niveau de la dualité entre Trey Murphy et Herb Jones. Lequel des deux tu mets sur le parquet et comment essayer de faire coexister les deux? Et il y a un troisième point, c'est que ces Pels, l'an dernier, En sortie de All-Star Break, c'était vraiment le moment où Willie Green avait trouvé les bonnes combinaisons, les bonnes rotations, et ils avaient fait un run qui les avait emmenés jusqu'en playoff. Là, j'ai pas l'impression que l'impact et que vraiment le souffle pour ces Pels soit positif. J'ai l'impression que Willie Green, il est en manque de solutions. Et Brandon Ingram est un peu l'arbre qui cache la forêt pour moi pour ces Pels. C'est celui qui permet au tout de ne pas s'effondrer, même si c'est déjà en train de vaciller, franchement. Donc oui, Brandon Ingram, pour lui dire, Brandon, t'as pas forcément des très bons pourcentages, mais moi, je vois tes matchs, je vois la difficulté de tes jump shots. Je me dis, bah, bravo quand même, parce que t'es dans un bourbier assez extrême.
C'est une attaque à lui tout seul. En fait, la problématique avec Brandon Ingram, c'est qu'on a voulu, enfin, c'est pas qu'on a voulu, il a été obligé de reprendre le rôle qu'avait Zion Williamson. Sauf que, voilà, enfin, c'est plus difficile. On va dire que, la shot diet, je sais pas comment dire ça en français,
le régime de tir. C'est très moche.
Voilà. En fait, le régime de tir de ton attaque quand elle est axée autour de Brandon Ingram est beaucoup plus compliqué à tenir pour une équipe positive que celle de Zion Williamson, puisque c'est une force. Et en fait, là, ils sont vraiment en manque de Zion Williamson. Tu parlais, Constant, tout à l'heure du côté Willie Green l'an dernier, il a trouvé à peu près à ce moment-là, il a trouvé des solutions. Sauf que ça a coïncidé avec l'arrivée du coup de CJ McCollum qui a fait vraiment du bien, puisque Devontae Graham ne mettait pas un pied devant l'autre. Mm. Et là, bah du coup, on se retrouve avec une armée de role players, avec Brandon Ingram qui n'est pas forcément un créateur principal, du moins pour c'est pas quelqu'un qui va apporter beaucoup de liens à ton système. Il va être capable de générer ses points, il va être capable de générer une attaque pour lui et un petit peu pour les autres, mais le playmaking n'est pas sa force première. Et en dehors de ça, t'as CJ McCollum qui, comme tu as dit, est très moyen. Et après, c'est que des role players, soit offensifs, soit défensifs. Et du coup, ça, c'est une attaque qui manque de liens, qui manque de passing. Et bah, tu te retrouves avec un jeu stéréotypé où tu dois quasiment tout faire, quoi.
Ouais.
Eh bien, je vais me permettre de me glisser dans cette petite pause pour parler de mon joueur positif à mettre en avant. Alors, des fois, je me sens un peu mal quand je tape sur certaines équipes, donc je vais mettre en avant un joueur des Hornets. Ce n'est pas commun, et oui, je sais. Je vais mettre en avant leur pivot rookie, Mark Williams, qui, alors, lui, limite plus que sur la période, faut prendre les 6 derniers matchs où il est devenu titulaire, où il tourne quasiment à 0,3 rebond près à un double-double. Et en fait, moi, en regardant ces matchs, ce que je me dis, c'est que, alors, peut-être qu'ils auront de la chance à la loterie, on ne sait pas, mais ils ont au moins trouvé leur pivot, je pense, titulaire pour l'année prochaine. Et ça fait plusieurs années du côté des Hornets qu'on se posait cette question. Alors, c'est très simple pour l'instant, l'apport notamment offensif de Mark Williams. Je sais que Clifford a déclaré, je crois, avant-hier que, il peut devenir un très bon joueur offensif. Bon, j'en doute, mais c'est du rim run. Il pose ses écrans, il finit près du cercle, il est extrêmement long. J'ai vu quelques tentatives de limite hook où les fans de Hornets, j'ai pu lire, peut-être le tir à mi-distance. Bon, calmons-nous, mais en tout cas, c'est positif. Bon, après, défensivement, alors oui, il fait beaucoup de contres, il a une espèce de série de contres, ça reste un jeune joueur, donc ça saute énormément. Mais moi, je trouve ça juste positif qu'ils aient enfin un pivot. Enfin, moi, je suis désolé, mais j'étais trop traumatisé par du PG Washington 5. Donc, ils ont au moins un pivot à mettre. Et ils ont un 7-footer. Voilà, ils ont un 7-footer correct. Je sais qu'il y aura toujours les débats par rapport à Jalen Duren, etc. Ils ont juste leur 7-footer. Je suis content pour eux. Voilà. Et positif parce que ça met en avant... Alors, il aurait pu être dans la catégorie d'avant. Ça a été discuté. Ça met en avant un peu la Melo Ball qui a enfin... un mec à qui il peut balancer des lobes. Bon, entre balancer des lobes et balancer des briques, c'est peut-être ça qui est plus agréable, c'est de balancer des lobes. Mais en
des blobs.
des blobs. Mais en tout cas, juste positif pour eux, parce que en termes de construction d'équipe, alors il y a encore beaucoup de chemin avant que ça soit un vrai protecteur de cercle, hein, ça je le dis pas, mais juste avoir un vrai pivot, je pense que ça peut grandement les aider dans leur reconstruction, tout simplement. Je sais pas si vous êtes très inspiré par Mark Williams, les gars. Je sais pas.
Non, bah, alors, je sais pas pour vous, mais il me donne quand même des très grosses vibes de Mitchell Robinson en un peu plus doué offensivement. Il donne des très grosses vibes de Mitchell Robinson. Ouais. Non, bah, moi, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est le fait que quand on connaît le passif de Mark Williams en NCAA du côté de Duke, où il était associé avec Paolo Banchero, il n'y a rien de surprenant. joueur très très intelligent défensivement en NCAA, grosse machine à contre. Offensivement, c'était du ring runner. Donc, sachant que il a le poste le plus difficile pour un rookie, à savoir pivot, et encore plus un pivot protecteur de cercle. Chez les Hornets, en plus de ça. mais voilà, c'est pour ça, moi, la comparaison avec Mitchell Robinson, je la trouve encore plus, sans me jeter des fleurs, je la trouve encore plus cohérente dans le sens où Mitchell Robinson, c'est son rookie, énormément de contre, mais c'était vraiment un bâton sauteur, quoi. C'était, il sautait à tout et n'importe quoi. Avant, progressivement, de réduire ce côté foufou et je saute partout. Donc, oui, s'il peut être un Mitchell Robinson défensivement tout en étant un poil un peu plus développé offensivement, on demande pas de mid-range ni de tir à trois points, mais avec un peu plus de mains que juste attraper des lobes, ce sera déjà très bien pour ces Hornets. Et encore une fois, je conclue juste sur ça, ils ont tradé Mason Plumlee, ce qui libère du temps de jeu pour les jeunes. Comme quoi, quand t'es une équipe en reconstruction, c'est peut-être pas plus mal de se débarrasser un petit peu de tes vétérans pour faire jouer les jeunes, puisque ça te permet d'avoir une belle éclosion avec Mark Williams.
Puis pour conclure,
c'était le seul moyen avec Clifford. C'était le seul moyen de pour que Plumlee joue pas, fallait l'envoyer ailleurs.
Bien sûr.
Pour conclure la comparaison avec Robinson, il y a aussi l'envergure de Fufurio aussi qui ouais. complète tout. Eh bien, terminons les joueurs positifs. Tom, Damien Lillard, parle-nous positivement de Portland parce que dans quelques minutes, ils vont prendre une rafale.
Il arrive avec les fourches là.
Non, mais que dire de Damien Lillard, pour moi, c'est un lock en All-NBA, first team, je pense, sur les guards. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, si on regarde les bilans, peut-être que non, mais globalement, sur la production et ce qu'il apporte à son équipe, je pense qu'il y a, quoi ? Il y a peut-être Luka et lui, puisque Curry est blessé, les Donovan Mitchell, tout ça, machin, enfin... Il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo avec cette classe de joueurs-là et Damien Lillard.
Il y a un petit arrière du côté de Oklahoma City, quand même. Moi, je dis ça innocemment.
Oui,
hein, bien sûr.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le même monde pour moi. Non. Pour moi, cette saison, il est vraiment une classe supérieure. En plus, sur la période, il explose tout. Alors, on va pas parler de son explosion à Utah, qui est probablement lundi. Utah, ils ont pris une mixtape d'Embiid dans le début de saison. Ils ont pris la même chose. Malheureusement pour eux, ils ont pris la même chose de Lillard un peu après. Mais enfin voilà, il explose tout sur son passage. Sur la période, il tourne à quasiment 38 points sur 21 shoots, 50% au tir, 39% à 3 points, 11 lancers. Donc voilà, il arrive quand même à aller chercher les lancers. Et puis surtout... Ben monsieur Clutch, encore une fois, hein, toujours très propre quand il s'agit de faire gagner son équipe. Et ce qui est triste, c'est que il est obligé de faire tout ça pour que son équipe soit juste moyenne, quoi. Donc moi, c'est un peu triste d'avoir un talent offensif aussi. Je pense que comme il y a Stephen Curry, peut-être la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ce gars-là il est fort. Et enfin, il est exceptionnel, Damien Lillard. Et il faut vraiment qu'on profite que ce type de joueur-là soit encore sur les parquets parce que c'est incroyable ce qu'il arrive à produire et c'est dommage qu'il soit dans une équipe qui soit pas assez bonne pour lui ou du moins qu'il soit pas à sa hauteur, à mon sens.
Alors, trois choses avant de donner la parole à Constant. Je sais pas si je vais me souvenir des trois. Première chose, meilleure attaque sur la période. Meilleure attaque, les Blazers sur la période. Deuxième chose, je suis contre ce discours de « on ne s'en rend pas compte avec Damien Lillard ». Regardons tous les DH20, il est toujours dans l'élite de l'NBA. Il n'y a pas une fois où il est classé en dehors. Mis à part cette année où il y avait le doute sur sa blessure, c'est mon troisième point. Les doutes ont été écartés sur le retour de la blessure et la difficulté, quatrième point bonus, des shoots qu'il prend. Parce qu'il prend des shoots, ouais. Mais difficiles, mais tellement difficiles pour pallier au vide intersidéral autour de lui. On va y revenir dans peu de temps. Donc, impressionnant. Et je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, All-NBA First Team, sans trop de débat possible. Constant.
Ouais, pour le côté All-NBA First Team, je sais pas, parce que après, il y a jamais de critères dans ces trucs-là. Mais si Portland reste à la 12e place de la conférence Ouest, Lillard peut être énorme. Pour moi, tu n'es pas All-NBA First Team. Faut être un minimum pour moi, ce n'est que mon opinion.
Ouais, oui,
si tu dois me dire, tu as Donovan Mitchell et Damien Lillard, qui tu mets dans une All-NBA First Team, je peux hésiter, ne serait-ce que pour le bilan. Alors qu'en termes de niveau, il n'y a pas de débat. Mais pour moi, il y a d'autres considérations qui
je vois ce que tu veux dire.
Mais après, oui. Moi, j'avais fait l'erreur de pas mettre Damien Lillard dans mon DH20 cette année. Globalement, le DH20, quand t'es rookie, c'est un beau champ de ruines. Je pense que l'an prochain, il va être radicalement différent, mon DH20. Et oui, Damien Lillard, pas grand chose à dire. On parlait du fait que il y a Stephen Curry, donc on considère peut-être pas forcément Lillard comme un très très gros ou comme un des tout courants. Pour moi, c'est vraiment différent parce que Lillard prend des tirs encore plus compliqués que Curry. Et Lillard, c'est beaucoup plus balle en main, beaucoup moins de démarcation via jeu d'écran, donc c'est beaucoup de création pour lui-même. Pour moi, Trae Young, Damien Lillard, c'est Trae Young, sauf qu'il met les tirs à 10 mètres, quoi. C'est vraiment, oui, pas gros.
Ouais.
Non, mais, en tout cas, en termes de difficulté de tir, je vois que Trae Young qui se rapproche de ce que peut faire Damien Lillard, parce que Damien Lillard est très efficace. Et quand on avait fait le précédent 4-4, j'avais dit, Portland n'a pas de banc. Ils sont obligés de s'en remettre à des coups de chaud monstrueux de Lillard pour pouvoir gagner. 17 matchs plus tard, on en est toujours au même point, peut-être même encore pire avec le trade de Josh Hart et de Gary Payton Jr.
Mais j'avais fait des recherches pour un DH20, parce que, chers auditeurs, les missiles sur Trae Young, je les ai toujours pas vraiment décoché en réalité hein, sur le DH20. Et en termes de statistiques en tir de loin, c'est vrai que t'as raison, Constant, il n'y a que trois mecs qui prennent vraiment un gros volume de tir à 10 mètres. C'est lui, c'est Trae, Steph et Lillard. Et Lillard, bizarrement, était un de ceux qui les mettait les plus, même s'il y avait une année un peu anomalie de Trae Young. Fermons la parenthèse, entrons dans les équipes négatives. Pourquoi? Parce que mon équipe négative à moi, c'est Portland, donc la transition est toute trouvée. Vous avez parlé des 17 matchs en question, on a parlé du niveau extraordinaire de Damien Lillard, on a parlé de la meilleure attaque NBA sur cette période, mais pourtant, eh bien sur cette période, les Blazers, c'est 8 victoires, 9 défaites. Pourquoi? Parce que c'est aussi la pire défense, 124.7 de defensive rating selon Cleaning the Glass. Et les gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, les defensive ratings, ça fait quand même quelques années que je pratique. 124, c'est quand même, j'ai pas souvenir d'avoir vu 124.7 très souvent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert StatEd, le superbe outil statistique de recherche. On vous remercie, chers auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter. Donc, nos revenus nous permettent, grâce à la publicité, de financer ce genre de recherche statistique. Et vous allez voir justement le résultat. C'est quoi le résultat? C'est que sur les 40 dernières années, 17 matchs sur une série de 17 matchs, comme celle du 4K, eh bien Portland se classe numéro 2 au classement des pires défenses sur les 40 dernières années. Hein, les seuls qui ont fait pire, ce sont les Pacers de l'année dernière, hein, qui étaient en plein tanking. C'était entre le mois de mars et d'avril. Donc, on était vraiment à la fin. Hein, voilà. Tom semble bouche bée. Oui, Tom, c'est historique ce qu'on est en train de vivre avec les Blazers. C'est incroyable. Bon. Et en fait, c'est ça qui me gêne, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler négativement, c'est que toutes les équipes qui les accompagnent dans ce classement-là sont des équipes qui typiquement sont en plein tank ou sont des équipes qui jouent pas, qui ont pas d'ambition comme l'ont les Pacers actuellement. On retrouve les Spurs cette année entre la fin décembre et la fin janvier qui était dans le classement des pires défenses. On retrouve Houston de la saison dernière, Portland de la fin de la saison dernière. Toutes ces équipes que j'énumère, c'est des équipes qui n'avaient aucune ambition. Ces Blazers-là, défensivement. Alors, première chose, je comprends. Je souviens que Kitsch est absent 9 matchs sur les 17. Je comprends. Donc, c'est, pour eux, c'est un vrai problème, parce qu'ensuite tu défends avec Drew Eubanks, qui est trop petit, qui est pas assez athlétique, qui ne peut pas protéger une raquette. Je comprends. Qui n'est pas dissuasif. Et, Tom, tu en parles souvent, quand le remplaçant entre sur le terrain, c'est le remplaçant du remplaçant qui prend les minutes et voir, franchement, des protections de cercle de Trendon Watford. Je ne veux plus jamais voir ça de ma vie. Passons. Le fait est que pour cette équipe de Portland, moi, c'est vraiment au niveau, on en avait parlé au début de saison, les rotations, c'est n'importe quoi au niveau des joueurs. Il y a plusieurs séquences de matchs contre OKC, Constant pour en parler, c'est clownesque. Vraiment, il y a 2-3 fois où chez Gilgeous Alexander se retrouve tout seul à 3 points, tu te dis comment c'est possible. Chez Gilgeous Alexander, qui a 19 lancers francs dans ce match-là, il en aurait pu en avoir 150, parce qu'à chaque feinte de tir, il saute, et c'est ça à chaque match. Il y a des mecs qui se retrouvent tout seuls. L'accès au cercle, c'est même plus un accès, franchement, c'est l'avenue des Champs-Élysées. C'est n'importe quoi, les Blazers, franchement. Et ce qui est vraiment choquant, c'est la facilité avec laquelle ils sont éliminés sur des 1 contre 1 ou sur des changements. Franchement, la défense du pick and roll, ils ont avancé une nouvelle défense. C'est-à-dire que ils trappent pas, ils switchent pas, ils accompagnent le porteur de balle, les deux défenseurs. Franchement, c'est apocalyptique, et je vais finir là-dessus, c'est une équipe qui a des ambitions. C'est là où c'est lunaire. Ils ont des ambitions. Parce que tu défends comme ça quand tu tankes avec tes rookies du second tour, je m'en fiche. Mais t'as des ambitions, tu sais même pas défendre un pick and roll. La zone, ça a fait illusion pendant 3 semaines, la zone. Ils se font atomiser dès qu'ils jouent une zone.
Ouais, ouais, maintenant, ouais.
Je sais pas quoi dire, les gars. Désolé, c'était mon monologue. Là, je vous ai offert ça enchaîné, mais c'est cataclysmique ce qui se passe.
Ouais. Bon, en fait, les Blazers, t'as l'impression qu'ils veulent faire une Cavs 2019. C'est-à-dire aller le plus... tout miser sur l'attaque et puis se dire, bon, YOLO, hein, on arrive en playoff, on va tenter leur scoring. Et c'est le truc qui est le plus inquiétant, encore une fois, c'est que globalement, on a une saison un peu masterclass de Damian Lillard. On a quand même un bon Jeremy Grant sur l'échelle du Jeremy Grant. Et on a quand même un Anfernee Simons plutôt solide par rapport à ce que tu pourrais attendre globalement d'Anfernee Simons. C'est juste que le supporting cast à côté, ben, il n'y a pas, tu vois, Jokic, quand il est pas là, quand il est là, pardon, il se fait critiquer. Puisque, voilà, la tâche est trop, on parle souvent de la théorie du costume. Alors oui, Jokic, il a de belles épaules, mais là, le costume, il est immense, là. Faut lui mettre un très, très, très grand costume, tu vois, pour avoir le rôle défensif, pour tenir cette équipe de Portland. Et quand il est pas là, ben, c'est pire. C'est un chantier total. Et malheureusement, je vois pas structurellement comment ils vont pouvoir se dépêtrer, parce que, encore une fois, ils ont fait des mouvements, à la trade deadline. Des mouvements où tu te dis, mais, attendez, les gars, mais, vous essayez pas de vous qualifier, là? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit vous estimez que le roster est assez bon et que vous préférez tenter des paris sur des jeunes qui n'ont pas marché ailleurs parce que vous estimez que ces gars-là peuvent vous apporter plus sur la fin de saison, du moins avec le côté upside et le côté variance, que ces gars-là peuvent vous apporter plus sur la fin de saison, ou que vous mettez cette saison-là de côté et que vous dites que ben, bon, on va garder ces gars-là, comme ça la saison prochaine, on va commencer avec eux, c'est tous des paris, il y en aura au moins un qui va marcher. Tu vois, surtout que bon, ils ont Mike Schmidt, machin, nanana, c'est des prospects, tout ça, voilà. Peut-être qu'ils se disent, ça a pas marché chez les autres, mais ça va forcément marcher chez nous, on est un gourou. Peut-être qu'ils se disent ça. Mais du coup, enfin, c'est pour ça que tu vois, cette équipe-là, en fait, malheureusement, j'ai peur qu'à part de faire de l'hard scoring, ils puissent pas faire grand chose d'autre. Malheureusement pour eux, dans la conférence, il y a des équipes qui font pareil et qui sont bien meilleures.
Puis en fait, là, je vais lancer Constant, c'est pas de l'hard scoring, c'est du Damien Lillard. Parce qu'en soi,
c'est du Damien Lillard hard
scoring. Non, bah, moi, vas-y, Constant.
Moi, j'ai fait mes petites notes. J'ai marqué Portland 2 points, no D, no W. Voilà, c'est vraiment... c'est
voilà.
Et j'ai mis entre parenthèses malgré un Lillard étincelant. Oui, bah... qu'est-ce qu'on peut dire sur Portland? Ils sont quand même paumés à partir du moment où t'as une passe dans le corner et le joueur qui revient près du cercle. Ils sont paumés à partir juste de ça. En fait, la question... Moi, j'ai pas envie de taper Portland parce que j'aurais déjà pas mal tapé dessus durant la trade deadline, mais ils défendent pas. Et en plus, en pourcentage de rebond, ils sont 29e. C'est-à-dire que défensivement, ouais, les gars ne défendent pas, mais ils prennent même pas le rebond défensif. Donc, je me pose des questions sur ce que fait en fait Portland défensivement.
Après, ils sont petits.
Oui, ils sont petits.
Ils sont trop petits.
Ils sont petits aussi.
Je pense à
d'autres. Ils sont pas concernés par le box-out. Ah, ils sont pas concernés par les box-out, les trucs comme ça non plus, tu vois.
Ils sont pas concernés. Et tu vois, je pense à ce pauvre Drew Eubanks. Le mec a beau se le pauvre Drew Eubanks, il a beau se battre, quand il fait face à des 7-footers, il est terminé. Il peut pas. Et en plus, c'est que bien souvent, si par malheur en face, il y a une équipe qui joue vraiment le rebond, je pense au match. Franchement, j'étais pris d'un fou rire quand je les ai vus jouer contre Washington, où ils se prennent à l'entrée Porzi, Daniel Gafford. Je me suis dit là, Gafford, ça va être un grand moment. Et en fait, le pauvre, quand il se prend Gafford, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre Drew Eubanks? C'est triste. C'est vraiment triste. Franchement, je vais pas envie que ce podcast dure 3 heures, donc on va enchaîner, les gars. Enchaînons. Alors, est-ce qu'on reste... Allez, j'ai parlé de la 30e défense sur la période, parlons de la 29e. Constant, parlons des Spurs.
Oui, bah alors, Vous savez, on a fait deux périodes, enfin, il s'est écoulé une certaine période entre nos deux épisodes du 4K, c'est-à-dire plus d'un mois et d'une semaine. Eh bien, le saviez-vous, pour les gens qui nous écoutent, entre notre dernier épisode du 4K et celui qu'on enregistre actuellement, les Spurs n'ont pas gagné un seul match NBA, puisqu'ils sont sur une série de 16 défaites. Non. Connaissez-vous leur bilan depuis le nouvel an, messieurs?
Eh ben...
3-2...
De 22, ouais, tout à fait. Deux victoires pour 22 défaites. Ouais. C'est le bilan des San Antonio Spurs depuis le nouvel an. Donc là, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau, là, qui est quand même, bon, c'est bien hein, de masquer un peu la médiocrité en gagnant 5 de tes 7 premiers matchs en début de saison, mais il va quand même falloir parler de la saison des Spurs. 121.5 de defensive rating sur la période où on évalue. Moins 13.9 de net rating, il n'y a personne qui fait pire, même Houston fait mieux, et de quasi 3 points de plus, hein, puisqu'ils sont à 10, moins 10 points. Hein, on est quand même sur une équipe qui est coachée par Greg Popovich, et qui possède, avec 120.5, le pire defensive rating de l'histoire. Vous pouvez chercher n'importe quelle équipe, les Sixers du process, toutes les équipes nulles, les Bobcats de 2012, personne n'a aussi mal défendu que les Spurs de toute l'histoire de la NBA. Moi, j'ai connu ça avec OKC, une équipe en reconstruction. Je peux assumer le fait que Malakai Branham et Jeremy Sohan soient ta deuxième et ta troisième option en attaque. Par contre, il y a un truc que je ne peux pas concevoir, c'est que quand tu es une équipe en reconstruction, OK, tu as envie de perdre des matchs, mais les principes défensifs, pour moi, c'est la base de faire défendre ton équipe. C'est quand tu as une équipe qui n'est pas douée offensivement, fais-les un minimum défendre. Et il y a des équipes qui, en termes d'effectifs, même si l'effectif des Spurs n'est absolument pas à un niveau NBA très élevé, mais dans l'histoire de la NBA, je pense qu'il y a eu des effectifs bien moins fournis en qualité que ces Spurs. Et pourtant, ils défendaient mieux que ces Spurs. Donc oui, moi, ça me pose problème, cette défense cataclysmique de San Antonio, parce que déjà, on leur laisse passer quand même pas mal de choses du fait qu'ils aient gagné 5 de leurs 7 premiers matchs et du fait que ce soit les Spurs. On se dit oui, non mais ils font une petite saison. Non, mais la saison des Spurs, elle est vraiment calamiteuse. Et le deuxième point, c'est que vous regardez OKC, vous regardez Orlando, de toutes les équipes en reconstruction ou dans ce cycle de reconstruction, c'est les deux équipes qui s'en sortent le mieux. Pourquoi? Parce que c'est les deux équipes qui ont les deux meilleures défenses, si on prend en compte Houston, Détroit et ces équipes-là. Donc oui, pour moi, la défense des Spurs, elle est pas problématique parce que ils n'avaient aucun enjeu sportif cette saison hormis les odds pour la loterie, mais il faut quand même souligner cette défense qui est, bah, en termes de statistiquement, la pire de tous les temps.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Tom?
Entre Portland, la pire stretch sur 40 ans, et les Spurs, la pire défense de tous les temps. Ah, c'est dur. C'est dur. Là.
Et on peut peut-être rajouter, Tom, que, Il y a cette statistique que j'aime toujours bien regarder. Moi, c'est le nombre, quand tu regardes les statistiques avancées, le nombre de matchs qu'aurait dû gagner cette équipe-là. Et en fait, ils sont les mettre limite en avance, les Spurs. Oui. Ils ont une victoire de trois.
Oui.
Parce qu'ils ont gagné des matchs, les quelques matchs qu'ils ont gagnés, c'était des matchs serrés. Mais ce que je trouve encore plus fou avec ces Spurs, c'est qu'ils ont gagné deux matchs depuis le nouvel an. Et ils ont même pas le pire bilan de la ligue. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, bon, Houston, qui a réussi à gagner moins de matchs que ces Spurs, alors que les Spurs gagnent rien quasiment depuis novembre. Et d'ici la fin de saison, ça c'est pour les amateurs vraiment d'art abstrait, il va y avoir deux San Antonio Houston.
Les Tankfest.
Je peux vous dire que, alors déjà, on avait eu un San Antonio Détroit qui allait en double overtime où c'était justement Devontae Graham la star. Alors là, les Houston San Antonio, ça, ils vont être à regarder.
Surtout quand ton proprio se ramène avec un t-shirt pré-faux Victor, mais ça, c'est un détail. Mais pour finir là-dessus, avant de te lancer, Tom, sur ton équipe, je me rappelle, Constant, que tu avais dit pendant les previews, de manière très juste, je sais pas comment ils vont gagner 20 matchs, bah, peut-être que le destin va te donner raison, parce que là, il faudrait qu'ils en gagnent 6. Je pense pas qu'ils en gagnent 6 d'ici à la fin. Hein. Je serais très surpris qu'ils en gagnent 6.
Hein. Ah bah ouais.
Mais dans les Tank Fest, hein, ils peuvent peut-être gagner des matchs dans les Tank Fest, hein, deux équipes qui tankent et puis voilà, ça peut tomber de le match peut tomber de leur escarcelle comme on...
Vas-y. Tom, du coup, ton équipe à mettre en avant ici négativement, vous l'aurez compris. Je l'ai pas précisé, mais je pense que ça s'est entendu, hein, c'est la partie négative. On enchaîne sur Miami.
Voilà, le Heat, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Alors, moi, c'est un truc qui me surprend avec cette équipe de Miami, c'est que quand on regarde les top défenses de la ligue, Miami est dans le top 6 cette saison défensivement au defensive rating. Sauf que, ben, sur non seulement en général, mais sur la période, ils concèdent 72% au cercle. Et en fait, je me dis qu'en fait, l'équipe de Miami, ils sont tellement en galère offensivement qu'ils ont absolument besoin de devenir plus qu'élite en défense pour pouvoir être vus comme des vrais contenders, on va dire comme ça, ou des équipes qui pourraient passer un tour, voire deux tours de playoff. Et je pense qu'il manque vraiment ce côté protection de cercle. Et en fait, cette année, tu ressens vraiment que le hit est petit et qu'il n'y a pas grand monde qui joue au-dessus du cercle. Quand tu regardes, par exemple, le 72% de... au cercle qu'ils accordent au cercle aux adversaires, ils sont devant les Mavs, les Pels et les Nuggets. Point commun entre ces trois équipes, il y a pas de protecteur de cercle. Donc du coup, c'est un peu dommage que le Heat soit avec en protection de ces avec ces équipes-là. Même Jimmy Butler, moi je trouve est très intéressant sur le playmaking défensif à l'extérieur, mais pour tout ce qui est enfin, bloc, recovery bloc et tout ça, je le trouve un petit peu plus absent cette saison. Et quelque chose. Alors, petite question trivia sur la sur le temps qu'on a sur le enfin sur la période qu'on a pris. Est-ce que vous avez une idée du nombre de matchs où le Heat a mis plus de 4 contres en tant qu'équipe?
3.
Ouais, 4.
C'est 3. 3 matchs. Ah, il y a que 3 matchs où ils ont mis plus que l'équipe a mis plus de 4 contres. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Ils ont il faut absolument qu'ils corrigent. Alors oui, ils font pas mal de zones. Ils ont un peu deux défenses, une défense avec la partie zone et une défense où ils sont très agressifs sur les porteurs de balles pour limiter le côté pénétration. Sauf que les équipes commencent à utiliser ça contre eux, notamment la capacité en fait de Bam Adebayo à faire des switches pour pouvoir le sortir, faire un swing et avoir Tyler Hero en roamer quand le ballon arrive vers le cercle, quoi. Donc Tyler Hero, il est important pour l'équipe offensivement, mais en fait ils ont tellement besoin des shooters, ils sont tellement, je trouve, petits et peu dissuasifs que au final leur cercle c'est une autoroute, quoi. Donc heureusement ils accordent pas énormément de tirs au cercle, mais en fait c'est une équipe, quand tu vas au cercle, ben tu y vas pour scorer, quoi, et tu scores à foison.
Je trouve que, je vais te lancer, Constant, vraiment l'aspect athlétique dont tu as parlé, Tom, historiquement, enfin en tout cas sur les dernières années, on avait beaucoup mis en avant ce point athlétique du côté de Miami, et là, il pue pas l'athlétisme, et l'ajout de Kevin Love en cela, dans le match justement, j'avais mis en avant Mark Williams dans le match contre les Hornets, les quelques fois où il y a Mark Williams contre Kevin
tu
Love,
vois qu'il
c'est
est
un
plus
espèce
grand.
De...
Ouais.
Ouais, tu vois qu'il est plus tout, hein, ouais. Globalement, actuellement, et c'est vrai que du coup, c'est un espèce de voilà, c'est un symbole de cette, moi, de ce déficit athlétique qui, moi, me choque assez. Constant, je te laisse enchaîner.
Oui, moi je vous rejoins sur ce point-là. Alors c'était un article de je ne sais plus quel journaliste, mon excuse, un journaliste du 8 qui avait été chercher la stat. Le 8, si on enlève les interceptions et les pertes de balles adverses, je crois que ça n'est plus que la 15e ou la 16e défense de NBA. C'est une équipe qui joue beaucoup sur les pertes de balles adverses, et quand elle n'a pas ses pertes de balles adverses, devient une défense beaucoup moins élite que ce qu'elle peut l'être si on regarde les stats de manière brute. Je suis totalement d'accord avec vous sur, notamment avec Tom, sur le côté undersize de ce hit, parce que quand on voit Max Strus, quand on voit Kevin Tint, pour moi c'est vraiment deux joueurs que je trouve très undersize. L'ajout de Kevin Love, je comprends le raisonnement, parce que les difficultés offensives du 8, vous parliez de la défense, mais moi ce qui me saute aux yeux, c'est la difficulté du 8 à attaquer. 27e attaque en offensive rating sur la période d'évaluation, et le pourcentage à 3 points, hormis Tyler Hero qui est à 34%, tous les autres shooters sont à moins de 32 ou à 32, à savoir Max Strus, Gabe Vincent, Cody Martin ou Caleb, je confonds à chaque fois.
Je crois que Caleb. Caleb
je
Martin.
Crois que c'est Caleb, ouais. Caleb Martin, Victor Oladipo qui a loupé des matchs aussi. Oui, pour moi, il y a une problématique. Et il y a un... Oui, que, okay, le, pas de,
enfin, pas de,
pas de calories, effectivement. Ouais. Et il y a un point que je voudrais souligner pour ce hit, c'est que Tom parlait de la défense de Tyler Hero. Et il y a un point que je voudrais souligner, c'est que Tyler Hero, en quality shot, donc c'est-à-dire tout simplement en qualité de tir, il est noté F. Donc, il prend littéralement les pires tirs possibles. Ouais. Et en shot making, il est A+.
Ouais.
Donc, ça montre que Tyler Herro est la définition même d'un bad shotmaker. Et quand on voit les difficultés offensives du Heat,
il est vital.
Ils ne peuvent pas se passer de Tyler Herro. Et ils ne peuvent pas se passer de Tyler Herro. Le problème, c'est que défensivement, c'est compliqué. Et offensivement, je trouve que Jimmy Butler, on sait que Jimmy Butler est toujours joue les saisons régulières avec le frein à main, mais là, le Heat n'a pas la marche qu'ils avaient l'an dernier pour que Jimmy Butler puisse jouer autant avec le frein.
Eh bien, chose avant d'enchaîner vers le positif, la VAR valide Caleb, hein, ça a été checké dans l'autobus. Et deuxième chose, peut-être pour conclure, il y a aussi le fait qu'ils n'ont jamais joué autant de zones, et pour moi, là, on commence à rentrer dans la vie, dans l'aveu de faiblesse plus que dans le choix stylistique. Hein. C'est clairement qu'on est en difficulté sur certains points. Terminons, messieurs, par le positif. Alors, on est à l'Est, on va rester à l'Est pour commencer. Constantin, allez, je te laisse enchaîner avec les Bucks qui sont ton équipe. Tu as pris les deux extrêmes. Hein. Tu as pris d'un côté l'équipe dans les choux et tu as pris l'équipe qui survole la période.
Toujours les extrêmes avec moi, il n'y a pas d'entre-deux. Mais non, j'ai pris les Bucks. Je me souviens, je voulais déjà en parler dans le précédent 4-4. Je ne sais plus quelle équipe j'avais abordé, mais je m'étais finalement rétracté. Parce que ces Bucks, on enregistre juste après la victoire contre les Suns, donc ils sont sur 14 victoires de suite. C'est la meilleure winning streak de la NBA. Moi, je les trouve particulièrement impressionnants. Alors, sur leurs 14 victoires, il y a quand même des victoires à pondérer, parce qu'ils ont gagné contre Denver sans Nikola Jokic. Ils ont gagné à Boston sans l'intégralité du Massachusetts en overtime, donc ils ont quand même éprouvé les pires difficultés à battre Mike Muscala, pivot titulaire. Ça, c'est à pondérer, mais ils ont battu Miami deux fois, ils ont battu les Clippers deux fois, ils ont battu les Lakers durant ce laps de temps, et je trouve que ces Bucks, défensivement, ils ont retrouvé leur côté de dominant. Sur la période d'évaluation, ils sont la deuxième meilleure défense de NBA, ils sont premiers en net rating, et on a souvent souligné cette saison les problèmes offensifs de ces Bucks, parce qu'il y avait des réels problèmes offensifs. Ils ont la 10e attaque sur cette période d'évaluation, donc ça n'est pas élite, mais t'arrives dans cette configuration où tu as une attaque top 10 et une défense top 10, qui est à peu près le principe de base, ouais, si tu veux être une équipe compétitive. Oui, pour moi, il y a aussi le retour des blessés, parce qu'on sait que cette équipe de Milwaukee a quand même eu énormément de blessés, et énormément de blessés répartis sur différents stades de la saison, puisque Chris Middleton a loupé énormément de matchs, Giannis Antetokounmpo loupe quelques matchs là de temps en temps, et en fait ils reviennent petit à petit à cet effectif au complet en attendant possiblement ce que peut devenir un Jake Crowder quand il sera complètement intégré à cet effectif. Et il y a un point que je voudrais une nouvelle fois souligner. Bon, Giannis Antetokounmpo, je voulais en parler, mais voilà, 32 points, 12 rebonds, 6 passes, 58% au tir, 12,5 lancés tentés par match, voilà, inarrêtable. Il est encore plus inarrêtable que d'habitude. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que sur la période d'évaluation, les Bucks, ils sont 8e en pourcentage de réussite à 3 points, oui, et qu'ils ont des shooters qui prennent complètement feu. Parce, oui, qu'il y a Bobby Portis qui tourne à 44%, il y a Grayson Allen qui tourne à 44%, il n'y a pas de Connaughton qui tourne à 43%, et ce que je trouve inquiétant pour le reste de la conférence Est, c'est qu'ils ont de la marge, puisque sur la période, Brook Lopez n'est qu'à 30% de réussite à 3 points, et Chris Middleton n'est qu'à 32% de réussite à 3 points. Donc, je vois l'effectif de ces Bucks, je vois qu'ils sont petit à petit en train d'enclencher la seconde pour vraiment arriver à une configuration et un niveau de jeu équivalent au playoff, et je me dis, oui, je suis prêt à le dire maintenant, je ne vois pas d'équipe plus impressionnante que ces Bucks pour l'instant.
Je valide le constat, Tom.
Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire sur ces Bucks? Moi, le seul truc que je pourrais dire, c'est sur lequel il faudrait, je pense, faire attention, c'est la notion de free throw rate avec cette équipe. C'est l'une des pires équipes de la ligue au free throw rate, alors qu'ils ont Giannis.
Alors, peut-on expliquer le free throw rate pour certains de nos auditeurs? Parce qu'on a beaucoup parlé de ça.
Voilà. Alors, c'est une équipe qui va très peu sur la ligne par rapport au nombre de possessions qu'elle a. Voilà. C'est le nombre de possessions pour lesquelles ils arrivent à avoir des lancers francs. Alors qu'ils ont Giannis dans l'équipe, c'est une équipe qui a le 30e, ils sont, je crois, 28e ou 30e au niveau du free throw rate, et ils sont 5 points en dessous de la moyenne. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, potentiellement, quand les shooters ne vont plus mettre dedans, pourra leur poser problème, encore une fois, quand ce sera les playoffs, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne compter que sur Giannis. On sait que Chris Middleton, c'est pas son point fort, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'évitement. Jrue Holiday, c'est pas non plus son point fort et sa tasse de thé. Donc du coup, va falloir trouver des solutions pour pouvoir, ou à moins de devenir une équipe de jump shooter autour de Giannis, quoi. Et ça, c'est risqué.
Eh ben, on va rester dans la même division. L'équipe que j'aimerais mettre en avant, moi, c'est la deuxième équipe au niveau du net rating sur la période. Ce sont les Cavaliers. Je tiens à noter que le bilan des Cavaliers est peut-être un peu trompeur parce que justement, 11 victoires, 8 défaites. Mais si on reprend cette fameuse stat du nombre de victoires théoriques qu'une équipe aurait dû engranger en regardant les statistiques, ils sont 30e de la NBA. Ils ont perdu 3 victoires théoriques, ce qui les rapprocherait plutôt d'un 13-5-14-4, ce qui irait un peu dans le bon sens. Les stats que j'aimerais mettre en avant avec les Cavs, il y en a deux. C'est la meilleure défense au cercle de la NBA sur la période et c'est la deuxième attaque au cercle de la NBA sur la période. Voilà, donc clairement, c'est le fond de commerce. Ils attaquent énormément. Evan Mobley, on va en parler. Pendant 3/4 la plupart du temps, commence à trouver le groove. Et il y avait eu beaucoup de questions, notamment sur son début de saison. Je pense qu'il y avait peut-être des attentes qui étaient un petit peu disproportionnées sur le jump qu'il devait faire offensivement. Il trouve son rythme. Et j'aime bien ce qu'avait dit. J'avais lu un article de The Athletic qui en parlait. Ce qu'avait pu remettre en avant Coby Altman. Je suis désolé, je perds ma voix. Malgré le fait que, oui, ils ont des ambitions, c'est peut-être une équipe dans le top 4, parce que pour moi, il se détache vraiment du reste de la conférence. C'est une des équipes du top 4 qui a peut-être le moins de pression sur cette saison-là. C'est leur première saison ensemble et ils peuvent voir ailleurs, surtout qu'au niveau contractuel, les mecs sont là pour bouger. Donc, tout simplement, je voulais les mettre en avant parce que c'est une équipe qui avait bougé cet été. On n'en avait pas vraiment parlé pour l'instant dans cette saison. Ils sont quatrième. Je pense qu'ils resteront quatrième à l'entame des playoffs. Je pense qu'ils ont un plafond de verre en playoffs, hein, si on se projette un peu, parce que le problème à l'aile, je pense qu'il va leur faire très mal. Même si, par ricochet, je pense que ce sont des gagnants du trade de Kevin Durant parce qu'ils vont éviter Kevin Durant en playoffs et que ça, c'est un vrai atout pour eux. Donc voilà, j'avais envie de parler de ces Cavs. Je te laisse entrée, Constant, je sais que tu vas parler du clutch, donc je te laisse enchaîner, on en avait déjà parlé.
Oui, d'abord, les points positifs pour Cleveland, c'est que c'est même la meilleure défense de NBA cette saison, tout court. Malgré les limitations qu'on pouvait avoir et les craintes qu'on pouvait avoir défensives du duo Garland-Mitchell, ce qui pour moi est représentatif du fait que avoir un duo d'intérieur dominant défensivement sera toujours plus important qu'avoir un duo de guard dominant défensivement et avoir un front court moyen, voire lower average. Oui, effectivement, pour moi, le vrai problème de ces Cavs, c'est dans le clutch, puisque ils ont le meilleur net rating dans le quatrième quart. On parlait du quatrième quart des Grizzlies. Pour le coup, les Cavs, dans le quatrième quart, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Par contre, en pourcentage de victoires dans le clutch, ils sont que 13e et ils sont que 15e en net rating. Et il y a, effectivement, pour moi, il y a une sous-utilisation de Evan Mobley et il y a une sur-responsabilisation de Donovan Mitchell. Je vais prendre un exemple tout bête. Le match contre Denver, en trois quarts-temps, Evan Mobley met 31 points. Il prend 2 tirs dans le quatrième quart-temps. Il y en a 7 pour Donovan Mitchell, il y en a 2 pour Darius Garland. Je vais vous sortir une autre stat qui fait un peu mal pour notre ami Donovan. C'est que parmi les 25 joueurs qui ont mis le plus de points dans le clutch cette saison, il n'y a que Trae Young qui a un moins bon pourcentage au tir que Donovan Mitchell, puisque Donovan Mitchell est à 39% de réussite. Il y a Tyrese Haliburton qui traîne pas loin et Trae Young est à 35% de réussite de tir dans le clutch. Donc oui, la sur-responsabilisation de Donovan Mitchell dans le clutch qui est voulue peut-être par JB Bickerstaff. Peut-être que c'est Donovan Mitchell qui veut nous refaire du Donovan Mitchell de Utah, sauf que tu n'es pas à Utah, tu peux, t'as Darius Garland potentiellement pour te suppléer, t'as Evan Mobley. Donc oui, ça me frustre un peu de voir cette équipe de Cleveland, dont je perçois le potentiel notamment défensivement, et notamment parce que c'est l'équipe qui joue avec la pace la plus lente de toute la NBA. Donc sur demi-terrain, ça peut être une équipe qui peut poser énormément de problèmes. Je serais très curieux par exemple de voir une confrontation face aux Bucks, puisqu'ils ont battu les Bucks il y a de ça pas si longtemps, je crois. C'est même la dernière équipe qui a battu les Bucks, si je ne dis pas de bêtises, avant leur série de victoires. Je serais très curieux de voir ce que pourrait donner une série de playoffs entre ces deux équipes. Et pour moi, tes limitations, elles sont dues au fait que dans des moments importants, tu ne te reposes uniquement, enfin, tu ne fais que te reposer sur Donovan Mitchell offensivement. Et pour moi, on l'a vu à Utah, surresponsabiliser et donner tous les tirs en fin de match à Donovan Mitchell, ça atteint ses limites à certains points.
D'ailleurs, dernière équipe, comme tu dis, à avoir battu les Bucks, ils n'ont pas perdu depuis le retour de Chris Middleton.
Ouais.
Mais enfin, en tout cas, cette équipe des Cavs, tu vois, le match face à Denver, vraiment, c'est hyper représentatif. Mmh. Et en fait, des fois, j'ai la sensation de revoir Memphis, en fait. c'est dommage. Des fois, j'ai la sensation de revoir Memphis dans le clutch où, ben, face aux joueurs supérieurs, leur jeu devient très vite stéréotypé, quoi. Mmh. Et tu vois, le match face à Denver, c'était vraiment, tu vois, ils se font vraiment plier par le trio Jokic, Murray, Porter, quoi. Alors qu'ils avaient réussi à plus ou moins les tenir dans le match. Enfin, ils avaient été solides sur leur plan de jeu, mais ils ont eu du mal avec la taille de Jokic notamment. Enfin, c'est là que tu te rends compte que, tu vois, Allen, il est quand même petit, tu vois, pour un pivot.
Et surtout si frêle. Enfin.
Ouais, enfin frêle.
Il est. Comment je peux. Vas-y, Tom. Je trouverai le bon adjectif. Ouais.
Oui, mais je comprends ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il est pas hyper charnu, ouais. Tu vois. Il manque de force fonctionnelle, on va dire ça. Il manque de force fonctionnelle et tu sens que, ben voilà, même si les gars sont présents à l'impact sur Jokic, ben, il y avait rien à faire. Et puis encore une fois, les problématiques sur le périmètre. Enfin, je suis désolé, Okoro aussi pas mal de mal face à Murray, du mal également, pour suivre Porter, ils ont eu vraiment de mal à suivre Porter dans la fin de match, notamment lorsqu'il allait se faire des démarquages pour prendre des tirs à 3 points. Donc des sautes de concentration, et puis de l'autre côté, t'as eu l'impression que offensivement la machine s'était totalement enrayée, quoi.
Mais les gars, est-ce que ça devient pas quand même au bout d'un moment, on a vu ça à Utah, on voit ça à Cleveland, moi, je remets plus en question Donovan Mitchell que le reste, parce que, comme l'a dit Constant, il y a Darius Garland, comme tu l'as aussi dit, Constant, il y a des bases qui fonctionnent, enfin, il y a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer, ça marche Evan Mobley, ça marche pendant 3 cartons la plupart du temps, et il y a encore ce hero ball de Donovan Mitchell, qui avait été critiqué à Utah. Donovan Mitchell, sur certains points, il s'est un peu réhabilité, déjà parce que je pense que cette équipe de Cleveland, les gens l'apprécient, d'une part. D'autre part, alors défensivement, il est loin d'être élite, hein, mais il est moins...
Il est plus solide qu'à Utah.
Que sa dernière saison, voilà. À Utah, où c'était vraiment une blague sur la fin.
Voilà. Là, au Cavs, c'est une porte avec une poignée entrouverte, alors qu'au Cavs, c'était le saloon.
Exactement.
Pas au Cavs, à Utah, c'était les portes de saloon, quoi.
Je pense que Rudy Gobert, oui, il aurait été content d'avoir le Donovan Mitchell défensivement des Cavs dans sa dernière année du côté de Utah.
Donc il y a de ça, mais à surveiller en playoff. Après, Donovan Mitchell peut se dire que c'est aussi pour ça qu'il a été un peu ramené. Mais passons. Je noterai juste, j'ai beaucoup aimé leur réaction après leur mi-temps apocalyptique contre les Hawks quelques jours avant l'enregistrement. Ça dépend au moment où vous allez écouter ce podcast, où ils ont tous dit clairement, on a des objectifs, c'est scandaleux qu'on soit à ce niveau-là, et je trouve qu'il y a quelque chose de bon qui se dégage à voir en play-off, parce que JB Bickerstaff, sur une série de play-off, je suis quand même un peu sceptique. Passons, Clippers, Tom, on finit là-dessus.
Ben, les Clippers, nos amis Clippers avaient pendant cette période un calendrier assez compliqué, avec notamment... une série de 11 matchs, donc 10 à l'extérieur avec juste un match à domicile entre temps, et c'est une période qu'ils ont bien gérée. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi les Clippers, c'est que on demandait en fait de la continuité à cette équipe là et notamment de la présence pour les stars que sont Paul George et Kawhi Leonard. Et puis là, c'est la première fois, enfin, par exemple, qu'on prend la période donnée, ce sont les deux joueurs qui ont joué le plus de minutes côté Clippers. Donc avec à peu près 500 minutes chacun, c'est les deux premiers. En termes de net rating, c'est les deux premiers également de l'équipe. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on prend par exemple le nombre de matchs par rapport, le nombre de minutes par match, pardon, par rapport à la moyenne sur la période, on voit que Kawhi Leonard, il est dixième, donc il est dans le top 10 avec plus de 35 minutes par match. Alors oui, le match à Sacramento, ça joue un petit peu. Et Paul George est dans le top 25. Donc, on demandait à cette équipe-là un petit peu plus de présence. Taïlou avait fait, je me souviens, une interview, il avait demandé de les avoir juste quelques matchs, une équipe juste quelques matchs, alors qu'on avait déjà passé la moitié de la saison. Alors, ils ont un effectif qui a été encore chamboulé avec 4 joueurs qui sont arrivés, mais au moins, ils ont cette base-là qui est solide, et puis les joueurs, enfin, le Kawhi, non seulement il a engrangé des minutes, de bonnes minutes, mais c'était pas le Kawhi du début de saison là. On sent que vraiment un joueur qui est vraiment monté en puissance offensivement et défensivement. Donc c'est de bon augure et je pense que, enfin, j'espère que ces Clippers là vont arrêter d'être une équipe théorique au moins pour les 20 derniers matchs.
Constant, je sais que sur les Clippers, tu avais prévenu d'aller être un peu en désaccord avec Tom.
Bon, en fait, les Clippers, je trouve que c'est une équipe très très intéressante. Je soumets des idées comme ça à la volée, mais en fonction de comment se passe leur campagne de playoff, c'est peut-être une équipe dont j'ai envie de parler un peu plus longuement, parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre l'expectative et entre le théorique et la réalité du terrain sur ces Clippers. Toi, Tom souligne le fait que c'est bien que ce groupe ait de la continuité, c'est bien que Paul George et Kawhi Leonard puissent jouer des minutes ensemble. Je me dis, mais en juillet, on faisait de ces Clippers peut-être les favoris avec les Nets. Quand vous regardez les codes de Vegas, deux équipes théoriques. Mais maintenant, les Nets sont beaucoup moins théoriques. Mais quand vous regardez les codes de Vegas, je les ai pas sous les yeux, mais il me semble, je suis quasi sûr que les Clippers étaient dans le top 5 selon les codes de Vegas. Et là, on parle d'une équipe qui, on se dit, oui, c'est bien, Paul George et Kawhi Leonard jouent ensemble. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que sur la période d'évaluation, ok, ils ont joué beaucoup de matchs à l'extérieur, ils sont en 17, 26e defensive rating sur les 17
oui.
matchs.
Oui.
Bon, alors, comme pour le temps de jeu de Kawhi Leonard, le match contre Sacramento doit grandement influer le defensive rating. Et d'ailleurs, je pense qu'on a cité le 30e, 29e, 28e, 27e et 26e pire defensive rating. On a vraiment passé une heure à citer que les mauvaises défenses. Et le problème que j'ai avec ce 26e defensive rating des Clippers, c'est que offensivement, ils sont bien plus imprévisibles et bien plus élevés. Ils jouent à un niveau de jeu bien plus élevé offensivement. Mais les Clippers ont toujours, enfin en tout cas les Clippers sous Paul George et Kawhi Leonard, quand ils jouaient, quand les deux sont sur le parquet, ce qui fait beaucoup d'intermédiaires, leur réputation, leur identité, c'était une excellente équipe défensive. Et ça, c'est peut-être un peu me projeter pour les playoffs, mais si les Clippers n'ont pas cette assise défensive, je vois pas comment ils peuvent viser plus loin que des demi-finales de conférence. Donc voilà, c'est mon côté négatif. Alors peut-être que j'en attends trop de ces Clippers et que je suis trop basé sur le côté les attentes qu'on avait d'eux en début de saison, c'est une équipe contender et peut-être qu'ils sont déjà plus une équipe contender et qu'il faut se contenter de ce qu'ils proposent actuellement. Mais oui, effectivement, moi pour que je sois satisfait de ces Clippers, il me faut autre chose que la 26e défense et que me dire Kawhi Leonard joue à un très bon niveau et Paul George joue à un très bon niveau et les deux jouent ensemble. Il faut un peu plus que ça.
Alors, petit Lavar cette fois-ci. Alors, retour sur les codes de pré-saison à Vegas. Celtics, Warriors, Bucks, Nets, Clippers. Donc, ils étaient top 5. Et cette année, on en avait parlé. La particularité, c'était qu'entre Celtics et Clippers, justement, entre 1 et 5, l'écart était assez minime. Donc, en gros, il y avait ces 5 équipes qui... Donc, effectivement, ouais. Tu l'avais dit, ils étaient dans le...
Le chapeau des favoris. Tête,
ouais, clairement. Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on conclut ici?
On peut conclure ici. Hein. On les attend du coup ce soir face aux Nuggets, leur bête noire.
Et
les Nuggets sont back-to-back.
Les Nuggets sont back-to-back. Hein.
Eh ben, vous aurez assurément la réponse parce que ça sera publié après. Donc oui, vous aurez assurément la réponse de ce mystère. Est-ce que les Clippers vont réussir enfin à avoir la peau de leur bête noire, les Nuggets? En tout cas, c'est comme ça qu'on va finir de notre côté cette troisième édition du 4K. La prochaine fois, ça sera la dernière édition. Alors, est-ce que ça sera une édition bilan de la saison? Est-ce que ça sera bilan des 20 derniers matchs qui auront plus ou moins d'importance? Est-ce que Portland peut faire pire défensivement? Est-ce que les Spurs peuvent rattraper? Parce que l'écart était minime entre les Spurs et les Blazers défensivement. Donc, on va voir. En tout cas, on se laisse le mystère pour l'instant. N'hésitez pas. Oui, Tom, tu lèves la main. C'est très beau. Je te donne la parole.
Alors, je voulais juste, du coup, profiter de l'instant pendant qu'il est là pour faire un shout-out à Constant, du coup, pour son passage dans le Basket Lab, où, de Guillaume qu'on salue. Il a fait, à mon sens, une très très bonne prestation.
Oh, c'est beau. Oh, les clous.
Allez écouter ça.
Direct.
Il va me faire rougir. Il va me faire rougir. Aller recevoir des éloges de Tom. Là,
c'est magnifique, c'est beau. C'est de l'amour, le podcast d'Unki Hebdo. Eh bien, allez écouter cet épisode avec Constant. Et puis nous, on se retrouve du coup. C'est ce que j'allais dire d'abord. N'hésitez pas du coup à nous donner vos retours sur ce format. Hein. On teste encore une fois. On n'est pas encore sûr. Je pense que vous allez nous dire qu'il y a beaucoup de stats, mais c'est vrai qu'on essaye de trouver des petits angles intéressants à chaque fois. Et puis nous, on va marquer la petite pause d'une semaine, comme d'habitude. Les gars, on l'a vu cette semaine, notamment avec le Boston. Tom, t'en parlais sur Twitter, le Boston-Philly. Les matchs commencent à être plus accrochés là. Alors, on sent qu'on a entamé une autre partie de la saison. Donc, ça sent bon les playoffs.
Ouais.
Ça sent aussi bon la draft. On a un petit truc peut-être qu'on vous prépare au niveau de la draft et forcément de Victor Wembanyama. Et bien du coup, les gars, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode assez long, hein, 1h20, qui se termine à 7h du matin, heure de Séoul. C'est assez difficile de conclure. Donc je vous remercie les gars et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut.
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 Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club, with me, Maisie Williams. And each week, we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.